soit démasqué, jugé.
Boulevard. 5, 2,
1. Bienvenue dans l'heure CV en ce mercredi 8 mai, très ensoleillé à l'extérieur. C'est votre rendez-vous quotidien d'une heure, tout en actualité, en psychologie et en discussion humaine. J'espère que vous allez bien, que votre début de journée a bien commencé. J'avais cette chanson-là dans la tête depuis mon réveil, fait que j'ai voulu la partager avec vous. Mon nom est Pascal CV, voilà pourquoi ça s'appelle l'heure CV. Et on passe justement cette heure-là ensemble. Et on a eu une grosse discussion avec les gars, parce que si vous ne le savez pas, je fais une chronique avec Reg Against le matin, juste avant d'entrer en onde. C'est comme notre pont entre les deux émissions. Puis on est allé dans une discussion imprévue, mesdames et messieurs, totalement basé sur le réel et le présent. À savoir, est-ce qu'il faut absolument des points en commun avec une personne pour être en relation avec elle? Et là, on est allé dans toutes sortes de nuances. Finalement, dans notre petit studio conversation près d'une bière, on a pas conclu, mais on a avancé parce qu'on va reprendre la discussion demain avec une psychologue relationnelle, mais ou un psychologue relationnel, 418-971-1021. Si vous en connaissez un ou une, c'est sûr qu'elle sera contactée ou il sera contacté pendant la journée, mais dans notre effet entonnoir, on s'est rendu compte finalement que c'était des valeurs qui étaient primordiales à avoir en commun. Ça semble un peu facile, ça semble un peu évident, mais on est allé avec... allez reprendre la conversation, mais si vous avez aussi à ajouter 418-971-1021 ou encore sur Twitch. On est parti dans une grande discussion. Twitch, c'est quoi? Des caméras en studio. Vous allez voir ma toque de Teletubbies bien en place pour cette journée-ci. c'est simple. Vous tapez BLVD barre en bas FM et puis ça vous amène avec des caméras sur nos grosses faces tout au long de la journée. 11 degrés, c'est ce qu'on a à Québec en ce moment. Alternance soleil-nuages. Un peu de pluie intermittente prévue pour la journée d'aujourd'hui. Oui, ça va être un petit peu plus difficile cet après-midi pour apprécier le soleil. Mais c'est un mercredi, c'est pas bien grave. On va travailler pour se sentir pas mal de pas pouvoir sortir dehors. Demain, jeudi, 12 degrés comme maximum, 40% de possibilité d'averse. Et à partir de vendredi, c'est du soleil. Ça monte jusqu'à 18 en fin de semaine. Voilà, on débute l'heure CV ensemble, telle que notre habitude. En fait, on y va avec le proverbe de la journée. J'aurais pu y aller avec un facile, genre « il faut prendre le taureau par les cornes ». Trop facile. Une étrange, comme « c'est à qui sera la chevauchée que la jument appartiendra ». Non, ça ne me tentait vraiment pas d'aller là. Alors, celle qui va faire office de notre lancement de leur CV aujourd'hui, c'est « on ne change pas une équipe qui gagne ». Interprétez-la comme vous le voulez. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Et ça, peut-être que dans le milieu sportif, c'est loin d'être une phrase utilisée. Je la remets en doute quand même. Est-ce qu'on doit changer une équipe qui gagne? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, on ne doit plus gagner si on ne se remet pas en question, si on ne fait pas certains changements. En même temps, si on gagne, peut-être qu'on se remet en question. Ah, la question philosophique de la journée. Hey, installez-vous confortablement. Tantôt, fidèle à notre habitude, on s'en va parler à Jérémy Giot au moins une fois par semaine, puis il y a des enjeux politiques importants à aborder aujourd'hui. Et cet enjeu qui nous touche aujourd'hui découle de ce que Québec solidaire souhaite faire, c'est aller conquérir les régions. Chaque parti branle la patte en ce moment-là. Tout le monde trouve tout le monde cherche son identité, j'ai l'impression. Tout le monde cherche à se faire élire. Tout le monde cherche son plan électoral pour les prochaines élections. Et là, ce qu'on voit qui commence à faire un petit peu plus de lueur dans certains rôles de parti, c'est justement les régions. Comment est-ce qu'on va aller chercher nos électeurs en région? En passant, Québec, parfois, est considéré comme étant une région en politique. Je dis parfois, mais c'est beaucoup et c'est souvent. Mais bon, on essaie d'aller vous conquérir, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Ça serait quoi votre enjeu en tant que gens de région? Votre enjeu principal? Et là, je vais avoir besoin de vous parce que je veux savoir avant qu'on parle à Jérémy Giot dans quelques instants. Alors, 418-971-1021. Vous, en tant que gens de région, Quel enjeu est le principal dans votre vie? Comment est-ce que Québec solidaire pourrait aller vous chercher? Parce que c'est un plan de match qui a été évoqué au grand public, là. Mais c'est aussi l'espoir des conservateurs au fédéral, aller chercher les régions. Beaucoup au Canada, ils ont des préoccupations plus agricultrices, plus conservatrices, familiales, économiques, oui, mais religieuses aussi que nous, ici, dans les régions du Québec, disons-le comme ça. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va changer entre le fédéral puis le provincial. Mais quand on regarde justement cette politique canadienne, il y a une perception que Toronto, Montréal, Vancouver gèrent le gouvernement et c'est pas ce que Québec solidaire ou les conservateurs souhaitent. Mais j'ai pour mon dire que c'est pas mal l'éléphant de guerre de tous les partis politiques, là, même ceux qui ne l'évoquent pas publiquement. Donc, je répète ma question. Quel est votre principal enjeu en tant qu'électeur de région? Merci de répondre à ce sondage. Leur CV Boulevard 102.1. Les maisons toutes pareilles. Les Cowboys fringants, c'est ce qu'on s'offre pendant que vous allez vous couler un café. Merci d'avoir choisi l'émission.
CV avec Pascal CV.
On va faire notre revue de presse en quelques instants, mais aujourd'hui, quelque chose à souligner, c'est le grand McDo. Oui, journée de collecte de fonds qui est organisée par les restaurants McDonald's au Canada, partout. Et c'est en cours en ce moment. Pour quelques achats chez McDo, ben, une portion des recettes, soit l'argent qui a été amassé, va être redistribué à l'œuvre des manoirs Ronald McDonald's. Donc, il y en a certains montants d'aliments et de boissons qui est versé directement à cette organisation-là, et aussi à d'autres organismes locaux de bienfaisance qui sont tous, par contre, voués aux enfants. Donc, les dons qui sont amassés aujourd'hui vont permettre d'offrir des services essentiels aux familles accueillies au manoir Ronald McDonald. Et ça comprend l'hébergement, les repas, le soutien en matière de santé mentale, de bien-être et encore là, ben, d'avoir le traitement médical pour les enfants qui vivent avec la maladie. Ça fait 30 éditions du Grand McDo et à chaque fois, ça participe vraiment très, très bien. Vous faites plaisir, puis vous faites plaisir à 468 000 familles partout au Canada en faisant un petit achat. C'est super simple. Vous mangez dans un restaurant McDonald's. Pour la première fois cette année, vous allez pouvoir aussi arrondir au dollar supérieur le montant de votre facture. Ça paraît pas peut-être pour vous, mais au final, avec le nombre d'achats faits aujourd'hui, bien, ça va paraître. On va avoir une enveloppe de plus juste en ayant arrondi comme ça votre montant. Et vous pouvez faire un don directement sur le site web des œuvres du manoir Ronald McDonald si jamais vous ne passez pas au McDo aujourd'hui. Et je dois dire qu'on est bien fiers parce que Jeff Fortin s'en va travailler au McDo avec Audrey Pinchot dans le Bourgneuf, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Alors, si vous voulez aller les encourager, vous allez voir leur belle binette en cuisine. Puis en plus, ben, c'est surtout pour une bonne cause. Allez, on revient dans un instant avec Jérémy Gio. On va aller parler de ce qui va conquérir les régions en politique pour les prochaines élections. Et c'est le cheval de guerre de Québec solidaire, entre autres. Les autres ne l'ont pas dit, mais on peut s'en douter. Et si tu donnais un sens?
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard
102.1.
On dirait que je m'y fais pas. Je sais que c'est une farce là, que l'annonceur me présente comme Pascal CV. C'est une farce ici. Nombre de fois que je reprends mes co-animateurs, c'est Pascal. Ils ont voulu niaiser avec ça. Je m'habitue pas. Mais la joke est bonne, c'est juste qu'il faut la connaître. Et vous êtes toujours dans l'heure CV. Oui, mon nom, c'est Pascal. Puis je vous accompagne jusqu'à 11h. Aujourd'hui, on a des sujets d'actualité, mais plus profonds. On est allé creuser un petit peu plus loin que ce qui est sorti, entre autres avec la nouvelle de Québec solidaire qui veut aller conquérir les régions pour les prochaines élections. Sachez, jeunes villageois de Québec, plus vieux villageois de Québec, que vous êtes en région selon la politique. Oui, Québec, la capitale nationale et ses environs, c'est considéré comme tel en politique. Et rappelez-vous, on en a jasé aussi dernièrement, Denis Gravel, avec les trois amigos, comme quoi Agnès Maltais, Gérard Deltel et Sam Ahmad avaient été qualifiés comme des gens de région par tous les politiciens du côté de Montréal. Fait que ça date pas d'hier, là, on s'entend, mais c'est fascinant de voir à quel point on catégorise comme ça certains, je dirais, lopins de terre ou territoires pour essayer d'aller chercher des votes. En conclusion, on va en discuter avec notre expert en politique qui vient faire son tour ici à leur CV de façon régulière. Il est au bout du fil et il est directeur chez TAC. Salut, Jérémy Guillaume.
Salut, Pascal. Moi aussi, je connais le struggle de la bataille pour faire prononcer son nom comme il faut, mais qu'il soit pas.
Je l'ai-tu eu, là, ou?
Oui, tu l'as.
OK. C'est vrai qu'au départ, je l'appelais tout le temps Jérémy, J-O-G-H-I-O pour les intimes, là, ceux qui veulent savoir. Mais voilà. Jérémy, c'est un peu moins compliqué, par exemple.
Oui.
on a eu une discussion en profondeur sur le sujet d'aujourd'hui parce qu'on voulait aller un petit peu plus loin que l'annonce de Québec solidaire, puis on s'est rendu compte finalement que c'est toujours un enjeu très important. Aller chercher les régions, aller chercher l'attention des régions, aller chercher le vote surtout des gens en région. Peu importe le palier politique, bien, c'est sûr qu'au municipal, si c'est dans ta région, je veux dire, on n'a pas besoin de développer. Au provincial, c'est très important aussi. Puis tu me parlais des conservateurs qui en fait son cheval de bataille pour la prochaine campagne, d'être capable d'aller consolider un peu une force régionale. Pour ça, il faut attirer l'attention. Pour ça, il faut aller répondre aux attentes des électeurs. Moi, j'ai posé la question, puis on y reviendra peut-être, Jérémy, ensemble, mais aux gens qui nous écoutent en ce moment, puisque vous êtes considérés comme villageois auprès de la politique, quel est l'enjeu principal pour vous duquel on devrait jaser aux prochaines élections? Il y a eu beaucoup de textos. On y reviendra, mais sur l'agriculture. Donc là, j'ai posé les questions, j'essayais de leur répondre par texto au 88-971-1021. Êtes-vous agriculteur ou c'est juste quelque chose qui vous importe dans vos valeurs profondes? Parce qu'on sait qu'il y a plein de crises partout. Donc continuez de nous répondre, autant sur Twitch que sur le 88-971-1021. Quel enjeu est prioritaire pour vous aux prochaines élections? Là, on se lance dans la discussion. Jérémy, pourquoi c'est aussi important les régions en politique?
Les régions en politique, je vais prendre la politique provinciale au Québec. Les régions en politique ont un poids fondamentalement important. Ils représentent environ 51 circonscriptions. C'est à peu près 40 % des 125 circonscriptions disponibles dans notre système politique. Et quand on regarde la map, le PLQ et Québec solidaire sont fortement concentrés à Montréal. Le Parti québécois et la CAQ sont fortement concentrés à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est les régions qui ont porté la coalition Avenir Québec au pouvoir, et c'est aussi les régions qui pourraient porter le Parti libéral du Québec ou Québec solidaire au pouvoir. Rappelons-nous, Philippe Couillard, quand il a repris les règnes au Québec, il s'était présenté où? Il s'était présenté chez lui, dans son patelin.
C'était au lac Saint-Jean ou au Saguenay?
C'était au lac Saint-Jean, ouais. Si je me trompe pas, c'était à Robertval.
Oui, c'est à Robertval, ouais. Exact.
Il s'était présenté là. Pourquoi? Parce que au Québec, tu ne peux pas accéder au pouvoir en étant seulement à Montréal. C'est aussi le constat que fait Gabriel Nadeau-Dubois. Et au-delà de l'argument d'aller conquérir les régions, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit autre chose de différent. Il dit qu'il est temps pour le Parti de Québec solidaire de se présenter comme un parti de gouvernement. Donc, moi, je sens à travers ça aussi peut-être le désir de se départir du système traditionnel de co-chef, co-porte-parole chez Québec solidaire. C'est dur à gérer quand on est à l'opposition. Et imaginez-vous une fois que vous êtes rendu au gouvernement. Donc, moi, Gabriel Nadeau-Dubois, son intention, elle est claire. Il veut devenir premier ministre du Québec et il le sait. Pour ça, il va devoir sortir de Montréal.
Mais là, par contre, ça vient un peu me jouer dans les entrailles politiques là, de petite fille qui a des suspicions négatives. Là. Finalement, c'est du théâtre, Jérémy. Je peux-tu malheureusement avoir une prétention de croire que quand on veut aller chercher les régions, c'est plus parce qu'on voit le poids politique et pas nécessairement l'envie, là, corps et âme, de répondre aux besoins des électeurs de façon majoritaire? C'est une stratégie?
C'est pas nécessairement du théâtre. C'est la réalité de la politique aujourd'hui. Si tu veux gouverner le Québec, tu peux pas être concentré à Montréal. À l'inverse, si tu veux gouverner le Québec, tu peux pas ignorer la métropole non plus. C'est de trouver cet équilibre-là qui va permettre aux partis d'à la fois venir rejoindre des gens qui habitent dans des centres urbains et d'à la fois aller rejoindre des gens qui habitent en région. Aujourd'hui, c'est comme si chaque discours se polarisait. On en a déjà parlé à l'émission, on sent que les gens se campent dans leur position, ne font plus le pont entre eux. Ben, il y a des réalités qui sont différentes, et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, on était capable de faire le pont entre Montréal et les régions. on était capable de s'entendre puis de reconnaître, bien, à Montréal, on a peut-être besoin d'un peu plus de transport en commun. Puis en région, bien, on a encore besoin de construire des routes puis de s'adapter aux réalités. Les véhicules électriques sont peut-être une super bonne solution à Montréal. Et peut-être qu'il y a encore un peu de travail à faire en région quand on a besoin d'un F-150 pour travailler à tous les jours. Ouais. C'est cette réalité-là aussi. Fait que moi, je pense pas que c'est juste du théâtre. C'est juste un constat. Si tu veux être au pouvoir, tu peux pas ignorer la moitié du Québec.
J'entends. Par rapport au provincial, parce que là, on parle de Québec solidaire qui voudrait aller conquérir ces régions-là. C'est dans l'actualité. Gabriel Nadeau-Dubois en a parlé. Est-ce que c'est bon de croire que c'est pas mal le cheval de bataille de tous les partis, même s'ils ne le disent pas sur la place publique, là, que c'est un enjeu? Je reviens à ton... je me réponds par ta première réponse. Là. Oui, si tu veux être élu.
Ben oui, si tu veux être élu. Puis si on veut regarder quelque chose un petit peu plus, allons dans les chiffres. Moi, j'aime ça là, quand on prépare une campagne électorale, j'aime ça regarder comté par comté, c'est quoi les tendances, c'est quoi les chiffres. Mais si on regarde le Parti libéral du Québec puis Québec solidaire, le Parti libéral du Québec puis Québec solidaire sont à 34 % et 24 % respectivement sur l'île de Montréal. Quand on regarde dans les régions, ben là, leur vote est faminique. Ils sont à 13 et 10 % dans les régions, pendant que le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec sont à 35-30 % Et la marge pour ces partis-là, elle est énorme et le potentiel de gain est minime. On parle aujourd'hui, si les élections avaient lieu, les libéraux seraient peut-être capables de ravir 2 circonscriptions en région, alors que Québec solidaire pourrait espérer... faire un seul petit gain en région. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et en même temps, tu ne veux pas délaisser tes forteresses pour juste te concentrer en région. Parce que le risque, quand tu fais quelque chose comme ça, quand tu fais une opération séduction de nouveaux bastions ou de potentiels nouveaux comtés, c'est de délaisser tes anciens. C'est de prendre des positions qui pourraient te mettre à risque dans où tu es fort.
En même temps, si tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. C'est complexe, là.
C'est extrêmement complexe. C'est un peu, Jean-Marc Léger dit souvent, c'est la stratégie de la tache d'huile. Commence par être fort où tu es, puis après ça, tu vas pouvoir t'étendre. Pour moi, en ce moment, Québec solidaire ne peut pas rêver à aller chercher les régions pour le moment. Ils doivent commencer par régler leurs problèmes internes. Ils ne peuvent pas partir à l'abordage en potentiel de croissance quand ça brasse à l'interne. Il faut que tu règles ça et après ça, tu pourras penser à peut-être charmer de nouveaux électeurs électrices.
Oui, mais là, c'est un bon point. Puis ça s'applique à presque tous les partis en ce moment. Là. Il y a eu beaucoup de mouvements au sein de la CAQ. Il y a eu beaucoup de gens mécontents, autant des députés que des ministres aussi au sein de la CAQ. Ça se passe pas très bien chez les libéraux. Ça se passe pas très bien au sein de Québec solidaire. Puis le PQ, ben sont 4. je pourrais parler de d'autres partis, mais en ce moment, ce sont quand même les principaux. Tout le monde a à revoir cette stratégie-là, soit de se reformer à l'interne, puis même à l'interne même des acteurs précis des organisations. Là.
Ben, si on regarde le parti qui va le mieux en ce moment, c'est le Parti québécois.
Même s'ils sont 4, c'est sûr que tu peux pas moins te chicaner.
Même s'ils sont 4, oui. Mais en même temps, ils ont un avantage. En étant 4, c'est plus facile de s'entendre sur le message.
Mais oui.
Le Parti québécois, pourquoi il va bien? Parce qu'il prend des positions qui sont claires, parce qu'il est au diapason avec l'électorat et parce qu'il est cohérent et consistant dans son message. Il envoie pas, il ne se cache pas qu'il est souverainiste, M. Saint-Pierre-Plamondon. Il dit lui-même qu'on lui avait conseillé de peut-être d'en parler un peu moins de la souveraineté s'il voulait devenir premier ministre. M. Saint-Pierre-Plamondon a fait le pari inverse.
Il a lui dit, on va être transparent. On a reçu Pascal Paradis là, du PQ la semaine dernière dans Marceau le midi, puis il a dit, ben on a choisi de nous dire la vérité. Après, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais on peut pas cacher notre vérité.
La transparence puis l'authenticité, c'est toujours une arme secrète bien gagnante. Il y a beaucoup de partis qui auraient avantage à l'utiliser un peu plus.
Toi, tu penses, Jérémy, que de le dire, même une personne qui ne souhaite pas ramener le référendum dans la discussion pourrait faire « Bon, moi, ils sont honnêtes, donc je vais voter pour eux? »
Bien, certainement. L'appui au référendum se tient à peu près à 30 % alors que l'appui au Québec pour le Parti québécois dépasse largement les 30 %. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient prêts à se pincer le nez sur l'aspect référendaire parce qu'ils aiment ce que M. Saint-Pierre-Plamondon amène. Ils disent qu'ils voteront non dans un éventuel référendum. C'est pas impossible. Pendant longtemps, on a cru que le plafond du Parti québécois était où l'appui de la population était pour un référendum. Je pense que le pari que Paul Saint-Pierre-Plamondon essaie de faire en ce moment, c'est de montrer qu'il est capable de ratisser plus loin que ça.
Eh bien, vois-tu, moi, je croyais ça jusqu'au moment où il n'avait pas pris la parole publiquement pour le dire, que c'était encore quelque chose de prioritaire pour le Parti québécois, la séparation du Québec, du Canada. Puis là, quand il est revenu avec ça dans l'actualité, j'étais en dichotomie totale. J'étais « wow, bravo, j'applaudis la transparence, j'applaudis l'honnêteté parce qu'on en a manqué au sein de plusieurs partis et paliers gouvernementaux au courant des dernières années, quitte à avoir des décisions de girouette. » Mais de l'autre côté, j'ai « oh là, ça, côté marketing pour le PQ, c'est un petit peu plus aride. » J'y étais à ce moment-là, avant les annonces publiques, que le PQ pouvait aller rallier des gens qui ne voulaient pas entendre parler du référendum. J'avais l'impression que ça avait... Puis on le saura, on le verra aux prochaines élections, on le saura par les commentaires des auditeurs et tout, mais je pensais que ça avait refroidi les gens, là, cette prise de parole.
Je pense pas. Puis tu sais, Pascal, j'aime ça faire l'avocat du diable. Je vais te poser un angle un peu différent de ce qu'on a. Il y a une discussion sur le fait que les régions, des fois, ont un pouvoir, sur le fait que des fois, Montréal mène la barre. Il y a aussi une discussion à Montréal sur le fait qu'il y a des votes qui valent moins. Je te donne un exemple. Un comté à Laval, dans Fabre, compte à peu près 50 à 60 000 électeurs. Puis un comté en région compte à peu près 27 500 électeurs. Si t'es à Gaspé, là, t'es à peu près à 30 000, 25 000 électeurs. Fait qu'il y a la conversation inverse de celle qu'on a aussi en ce moment, où ce que il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a pas assez de comtés en région urbaine. Moi, j'en fais pas partie, même si j'habite à Montréal. Mais il y a toujours, c'est tellement un jeu. On disait au début, c'est de trouver un équilibre. Il va toujours avoir des mécontents, il va toujours avoir des contents. Je pense que les meilleurs politiques vont réussir à aller au-delà de ces débats-là, c'est ceux et celles qui vont être capables de rassembler le plus possible. On voit de moins en moins le vote du centre se concentrer, mais je pense qu'encore dans notre société à nous, on n'aime pas tant la chicane. Les gens qui vont réussir à avoir du succès en politique, c'est les gens qui vont être capables de colmater la distance entre les besoins en région puis les besoins en ville.
Mais j'entends beaucoup de force aussi qui est à ramener aux politiques, là. Pas d'obligation, pas de dictature, mais une force de caractère, là. Et ça peut être fait aussi avec cette façon de bien faire la politique, là, d'être poli avec les autres puis de pas chercher du rififi. Hey, en terminant, parce que je vois le temps passer, Jérémy, puis ça a été... Ça a été dans notre conversation, sans l'exposer depuis le début, parce qu'on est parti avec le fait que beaucoup de partis politiques souhaitent conquérir les régions, surtout pour les prochaines élections. Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit fort. Les conservateurs au Canada aussi souhaitent aller chercher ces gens-là en région. Mais je veux revenir avec toi sur quelque chose qu'on a fait à Boulevard 102.1. Il y a Denis Gravel qui a eu une grande conversation avec les trois amigos, ce qu'on appelle. Bon, il y avait Agnès Maltais, il y avait Sam Ahmad et il y avait aussi Gérard Deltel. Et les trois qui ont défendu Québec pour différents partis. Certains ont été, ont côtoyé et ont été même des ministres forts dans certains gouvernements, ont à l'unanimité dit qu'ils partaient avec 3-4 pas de recul en venant de Québec et en défendant de Québec lorsqu'ils avaient des enjeux à débattre ou des projets de loi à faire ou encore. À chaque fois que tu as une étiquette de Québec dans le front, c'est comme si en politique, tu vaux 10 points de moins. C'est fascinant, ça, quand tu dois travailler en collaboration dans un gouvernement. Pourquoi est-ce que Québec est autant le petit cousin à pattes cassées?
Bien, c'est fascinant, surtout que ça vient de personnes qui, tu sais, Sam Ahmad et Agnès Maltais étaient vus comme des ténors là, mm-hmm. de leur parti respectif. On le voit à plus grande échelle avec Jean-Yves Duclos et Joël Lightbaum, qui sont des membres. Jean-Yves Duclos est ministre dans le cabinet libéral. Joël Lightbaum est un membre du caucus libéral. Pour moi, ça peut s'expliquer. Puis là, bon, je mets mon chapeau, j'habite à Montréal, donc je ne peux pas être relié par cette affirmation-là, mais dans le sens où, ce que pour moi, il y a une décision qui c'est malheureux et ça va peut-être alimenter le cynisme de certains, mais les partis politiques vont souvent gouverner avec où leur centre est. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, par exemple, peut très bien remporter une élection en perdant le siège de Jean-Yves Duclos et de Joël Lightbaum. Mais il ne peut pas remporter une élection en perdant 6-7 sièges à Montréal. C'est peut-être là que vient cette dichotomie-là et cette inégalité entre les forces. En même temps, je ne suis pas sûr que c'est la réalité de Geneviève Guilbeault en ce moment à la coalition Avenir Québec, alors que le gouvernement est très fort à Québec et très fort dans les régions du Québec. Je pense que ça dépend où est le centre des électeurs de votre parti. Et c'est là que ça devient un pivot important. Pour M. Deltel, il y avait M. Lebel à l'époque avec Stephen Harper. Même si M. Lebel était apprécié, était très fort, il y avait 12 députés conservateurs dans un gouvernement majoritaire, donc de plus de 165 députés à Ottawa. C'est sûr que tu pars avec des longueurs de retard, tu pars avec du travail à faire, il va falloir que tu rames plus fort pour faire en sorte que ton projet, tu le vends bien aux gens de la Saskatchewan, de pourquoi on investirait dans un pont à Québec plus que dans un pont à Vancouver ou à Saskatoon ou
au fédéral, je peux comprendre. Là. C'est une étendue, puis il y a plus de gens, puis chacun a ses enjeux, a ses problématiques, puis chacun doit représenter le plus possible là, sa petite partie de territoire une fois élu, parce qu'ils veulent être réélus aussi dans leur segmentation attribuée. Mais ça me faisait particulièrement grincer des dents au provincial. Puis c'est bon, avec tes explications, on comprend peut-être un peu plus aussi.
Ben, je veux pas m'inscrire en faux avec eux. Pour Sam Hamad, je peux comprendre, parce que Sam Hamad était au Parti libéral, la majorité du bassin de vote vient de Montréal. C'est sûr qu'il y avait des combats à faire. Mais pour ça, si je regarde la situation actuelle, prenons les ministres actuels, par exemple comme Geneviève Guilbeault, qui est vice-première ministre, ministre du Transport, c'est une ténor. Je pense pas que quand elle arrive avec un projet de loi, elle a de la misère à le faire passer parce qu'elle vient de Québec.
Mais ça a été froissé, son identité récemment, là, même auprès de son propre parti. Mais ça, c'est pas d'autres déboires.
Elle est la ministre la plus populaire, n'empêche que
elle a
pas moins de poids parce qu'elle vient de Québec dans le cabinet. Fait que je pense que ça dépend toujours du bassin de vote du parti qu'on représente. Peut-être que Mme Maltais se sentait comme ça, je ne sais pas c'était quoi les dynamiques au Parti québécois à l'époque, mais dans la situation actuelle des choses, on a un gouvernement qui est élu par les régions et la région de Québec, et les régions et la capitale nationale. Donc, c'est sûr que les députés de Québec vont avoir un poids à dire, surtout de plus en plus que le Parti québécois commence à menacer la position de la coalition Avenir Québec dans la région de Québec. C'est le temps de briller là, en ce moment pour les élus puis les ministres qui viennent de la Ville de Québec.
Yeah, c'est pas tout à fait aussi facile que ça, mais effectivement, c'est le temps avec tes explications. C'est éclairant. Merci beaucoup, Jérémy Guillaume, d'avoir été avec nous dans leur CV.
Merci, Pascal.
Une bonne journée. Toujours intéressant, ces questions-là. Qu'on parle de l'actualité, puis on va les creuser plus loin. Puis je voyais que vous réagissiez beaucoup à ça. Oui, ça se peut que Québec aussi... autre que des élus qui ont été faits, les enjeux majoritaires qui peut-être sont dans la région, deviennent un petit peu plus fortes à travers les années, un peu plus vocales, un petit peu plus présentes. C'est grâce à vous en partie aussi, mais peut-être malheureusement pour des éléments positifs et des négatifs. Quand on a une décrépitude d'infrastructure, bien, on en parle un petit peu plus parce qu'on a besoin justement de parler un peu plus fort pour ne pas perdre nos monuments comme le pont de l'île d'Orléans. Là. On ne peut pas s'en passer. T'es que kayak, Céline le disait, mais c'est un petit peu moins jovial et facile si jamais on n'a pas de pont de l'île d'Orléans. Quand on voit à travers, c'en est une autre affaire. Je vous posais la question de savoir c'est quoi votre enjeu par excellence pour les prochaines élections, puisque vous êtes considéré dans les régions, mais villageois. Qu'est-ce qui va attirer votre attention et comment est-ce qu'on pourrait aller vous chercher? Beaucoup de gens qui nous parlent d'agriculture, ça me fascine parce que là, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas en agriculture qui en parlent. Il y a des gens qui commentent aussi la position de Gabriel Nadeau-Dubois de dire ça parce qu'on dit qu'il est en train d'oublier sa base. Ceux qui Il y a un petit jugement, une opinion là-dedans là, de notre auditeur, mais les pelleteux nuages de Montréal, ça risque de faire mal si jamais il va aller chercher un petit peu plus les régions. Sa co-chef venait de l'Abitibi. Les partis, c'était elle qui représentait un petit peu plus les régions. Et on continue en disant, le pire, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois ne comprend pas que les régions, c'est des travailleurs et pas des gens qui sont pro-syndicats ou autres. Il y a Steve qui dit, moi, 100% l'agriculture, ça me fascine. Est-ce que vous êtes texté? Parce que c'est presque caricatural. L'agriculture, parce que je n'aurais rien à manger, mais je ne suis pas agriculteur. Et il y a quelque chose, là. Il y a un enjeu qui vous intéresse beaucoup. Quelqu'un qui dit « Je suis tellement désabusé par la politique, alors le fait de se concentrer sur les régions puis aller parler de nos enjeux, ça pourrait me rendre intéressant à nouveau la politique. » Super intéressant. Quelqu'un qui dit « Nouvelle politique agricole avec des gestes concrets pour forcer les instances publiques d'acheter de nos fermes au lieu du plus cheap sur le marché international. » Quelqu'un qui dit « C'est toujours comme ça. On nous dit qu'on va se concentrer sur nous à chaque élection. Finalement, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne puis qu'on est oublié. On dit qu'on va mettre nos demandes de l'avant, mais ça ne se conclut jamais par des actions concrètes. » Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, ce qui m'importe en ce moment, c'est les réseaux de transport structurants qu'on pourrait avoir dans la région. » Quelqu'un d'autre qui dit, je vais peut-être surprendre des gens, mais moi, c'est la santé. En région, nous ne sommes pas aussi desservis qu'ailleurs dans les grandes villes. Et je ne parle pas nécessairement de la capitale nationale, mais parfois, ça peut être inquiétant pour nos parents qui se trouvent à l'extérieur des grands réseaux. Intéressant. Continuez d'écrire 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Aussi beaucoup de gestion financière qui entre par texto. Je comprends. C'est un enjeu, je pense, qui est primordial pour tout le monde ici à l'écoute. Vincent Vallière chantait auparavant un corps de pièce. Ça aurait pu aller avec notre petit sujet, mais là, c'est l'avenir est plus proche qu'avant. Hein? C'est une chanson sur la vieillesse. On va l'écouter ça ensemble.
L'heure CV avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.
Suite à la dernière discussion avec Jérémy Guillaume sur les partis politiques qui veulent aller rejoindre les gens en région, il y a encore des commentaires qui sont entrés pendant la chanson de Vincent Vallière, entre autres quelqu'un qui dit « Ça peut sembler bizarre ce que je vais écrire, là, mais moi, mon enjeu principal, c'est juste d'arrêter de se faire remplir. » Puis je vais utiliser l'expression « remplir de merde » qui est écrit, en fait, dans le texto. Poliment, ça aussi, c'est écrit après cette expression-là. Qu'ils fassent ce qu'ils promettent en période électorale. Ça fait beaucoup trop d'années déjà que ce sont des menteries par-dessus des menteries. Puis là, elle nous souhaite une super belle journée, Kim. Elle a signé son texto. Mais j'avoue que ça devient une histoire de contenant puis de contenu de plus en plus. Est-ce que je trouve ça déplorable? En partie, parce que je me dis, si on est rendu là, c'est loin d'être la politique qu'on faisait auparavant, soit d'avoir un contenant qui va en deuxième du contenu, autant chez les personnes qui se présentent, autant dans les prises de parole qu'autant dans les actions qui sont portées auprès des électeurs. Mais si on est rendu à avoir des textos comme ça qui disent « Moi, je veux juste plus de menterie, puis je vais choisir la personne qui va pas m'en compter, puis il va me prouver que il va au bout de ses projets, même si c'est peut-être pas mes projets. » Je trouve ça intéressant, puis aussi triste qu'on soit rendu là. Mais je le comprends. Puis j'adore ce texto-là. Je trouve que c'est une super belle réflexion. Là-dedans, je vais revenir à l'exemple de Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ qui dit, moi, je vais ramener le référendum. C'est sûr, ça fait partie de mes convictions politiques. Si vous me mettez au pouvoir, rendu là, est-ce qu'on est content qu'ils nous le disent avant la campagne électorale parce que vous pouvez voter en conséquence? Et est-ce que vous allez voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon même si vous ne voulez pas vous séparer du Canada parce que vous dites, au moins, lui, il est honnête? Hey, c'est de forts paris, là. C'est très intéressant et déplorable en même temps. Quelqu'un qui dit « C'est mon travail de faire le tour des ressources en santé en région et mon constat, c'est qu'elles sont beaucoup mieux servies qu'on le pense. À part des services spécialisés où les grands centres sont mieux desservis, les gens en région ont souvent un bien meilleur accès aux services courants, selon moi. » Quelqu'un qui dit « Garderie, école, santé, le restant, je veux rien savoir. Concentre-nous sur les bonnes priorités et oublions le reste. » Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je serais porté à vous dire les services d'urgence et la santé mentale. » Santé mentale, hein, à sur lignée. J'habite Bellechasse en Chaudière-Appalaches. Le territoire est grand pour les effectifs. Je suis première répondante dans mon village et une chance qu'on les a, nos pompiers, policiers et ambulanciers devraient avoir plus. Merci pour vos commentaires. C'est intéressant. Vous nous parlez aussi de vos régions, finalement. Fait qu'on est un peu le porte-étendard des partis qui veulent que vous votiez pour eux. Écoutez-nous à leur CV. C'est un grand débat d'idées de gens qui sont dans leur salon ou encore dans un petit studio. Quelqu'un qui dit le départ d'Émilie de Québec solidaire vient beaucoup du du fait qu'elle est une jeune maman à temps plein et qu'elle s'en est mis énormément sur les épaules. C'est une très grande travaillante et une passionnée, n'arrêtera pas de militer pour autant, et c'est tant mieux. C'est l'une de nos grandes du Québec. Ça, c'est un commentaire qu'on vient de recevoir. Sur Twitch aussi, parce qu'on faisait référence au fait que si Gabrielle Nadeau-Dubois veut aller conquérir les régions, il faudrait qu'il garde des gens qui prônent les régions auprès, près de lui, finalement. 40 ans, il y a 40 ans, se passait la tragique fusillade de l'Assemblée nationale. C'était le 8 mai 1984. C'est une commémoration aujourd'hui. Denis Lortie qui a fait irruption, je vous rappelle, il y a 40 ans au Salon Bleu avec une arme automatique, a tué 3 personnes, il en a blessé 16 autres. Et bon, voilà que c'est le retour sur cette journée-là qui a changé dans la sécurité de nos édifices publics. Ça a toujours joué. Malheureusement, on travaille sur cette sécurité-là après, peut-être pour pas en faire trop non plus, mais ça aura été tout un branle-bas de combat il y a 40 ans. Absolument triste et tragique, cette fusillade-là qui avait eu lieu du côté de l'Assemblée nationale ici à Québec. Dans les nouvelles aussi, peut-être dire qu'on a des usagers des Sentiers de la Marmotta à Cap-Rouge qui ont envahi l'hôtel de ville hier, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, il y avait un premier groupe qui est allé déposer une pétition de près de 15 000 signatures pour ne pas fermer la Marmotta, pour la sauver, et ils ont participé à la période de questions. Ça semble pas avoir été fructueux, comme quoi l'opposition n'a pas eu le droit d'avoir un droit de parole sur ce sujet-là. Ce sont les informations que j'ai eues dans les coulisses. Et on va aller explorer un petit peu plus la question là, dans Marceau le midi tantôt. Mais c'est particulier, comme si on veut vraiment pas parler de ce dossier-là puis qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des canaux de communication. Ils ont offert aussi, les amateurs de sentiers de vélo de montagne de la Marmotta, une soirée d'acrobatie. Vous avez peut-être profité de ça. Il y en a qui se sont beaucoup amusés. Ça a été fait de façon ultra respectueuse. J'ai été voir. Et les policiers aussi ont contribué à ce que ça se passe bien. Il y a eu vraiment une belle participation de gens qui le faisaient pour les bonnes raisons, de façon pacifique. C'est triste de voir qu'il n'y a même pas de canaux de communication avec ces gens-là quand ça se déroule comme ça. Après, à quel moment on va avoir un canal de communication si quand on le fait de façon pacifique, organisée, qu'on a contacté les policiers, que c'est gentil, que c'est jovial, ça ne fonctionne pas, parler à la mairie. Ça m'inquiète un peu, là. Un jeu d'enfant voler un véhicule, ça prend 7 minutes pour un VUS. Bon, ça a été fait à Longueuil, le test, mais quand même, qu'on le fasse à Québec ou à Montréal. Et c'est le temps calculé pour voler peut-être votre véhicule qui a été énoncé dans le Journal de Québec aujourd'hui. Donc, c'est absolument rapide. Puis, c'est pas nécessairement intéressant de savoir ça parce que 7 minutes, ça se peut que vous en rendiez pas compte, mais c'est un fléau. C'est un grand, grand, grand fléau. Parlons du soutien à domicile des aînés qui revient dans la presse aujourd'hui. Il y a une liste d'attente qui est moins longue, mais impossible à éliminer. C'est ce qu'estime la province. On dit qu'il y a moins d'aînés qui attendent pour obtenir des services de soutien à domicile, mais que la liste ne disparaîtra pas, finalement. C'est ce que la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a avoué aujourd'hui. C'est une allocution au Sommet national du maintien à domicile à Québec qui a permis de rassembler plusieurs personnes et de discuter de cette liste d'attente-là, qui était de 21 000 personnes l'an dernier. Elle est rendue à 16 500 personnes au 31 mars. Il y aura toujours des personnes âgées qui vont devoir attendre pour des services dont elles ont besoin de manière autonome à la maison, c'est ce qu'on dit. Mais là, je me pose plusieurs questions. Je trouve que l'article manque un peu de chair autour de l'os. J'aurais voulu savoir, est-ce que ce sont des gens qui sont décédés? Est-ce que ce sont des gens qui ont décidé finalement pour avoir des soins parce qu'ils étaient en attente d'aller dans des organisations, des institutions? C'est pour ça que la liste, elle a diminué. Je trouve qu'il nous manque des données. J'espère qu'on ne s'applaudit pas du côté du ministère responsable des aînés de ça si on n'est pas capable d'avoir plus d'informations, là. Et je termine avec l'international. Oui, procès de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, fait encore réagir. Stormy Daniels a témoigné hier. Et pendant son témoignage, Trump était extrêmement en colère. Là, on le voyait incapable de se contenir. Il y a eu le contre-interrogatoire aussi de l'ex actrice porno Stormy Daniels et ça va se poursuivre aujourd'hui, demain, au procès de Donald Trump. Là, c'est toujours le procès pour la dissimulation d'un paiement de 130 000 $ dans l'élection de 2016 pour tenir secrète une présumée relation sexuelle qu'il aurait eue avec elle 10 ans plus tôt. Puis elle a dit oui, c'est arrivé, nous avons une relation sexuelle et Donald Trump tenait très peu sur sa chaise. Paradis City de Jean Leloup dans vos oreilles à l'instant. Et c'est ce qui conclut l'RCV. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dans un instant dans Marceau le midi. On vous accompagne jusqu'à 14 h.